RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
C'est avec les GG, les grandes gueules, que vous réagissez tous les jours entre 9h et midi en direct sur RMC, la radio, et RMC Story, la télé. Aujourd'hui, Emmanuel Debillier, le chef d'entreprise, la coach de vie, Joël Dagosséry, et l'avocat Charles Consigny. Nous serons rejoints dans une heure précisément par Patrick Sébastien. Patrick Sébastien qui pourra répondre à Delphine Ernotte, vous savez, qui est en colère contre sa chanson Delphine, chanson qu'il qualifie de paillarde, de truculente, de grivoise. Elle estime qu'elle est sexiste, donc elle veut porter plainte contre Patrick Sébastien. Et c'est aujourd'hui que l'on saura si le rapport de la commission sur l'audiovisuel public est dévoilé, sera dévoilé ou non. Le vote des députés, 30 députés, c'est tout à l'heure à 14h30. Et si c'est le cas, le rapport de M. Patrieletus et de M. Charles Alloncq sera dévoilé, avec toutes les pistes de réflexion, de réforme, lundi prochain. Donc Patrick Sébastien, tout à l'heure à 11h avec nous. D'ici là, dans la deuxième heure des Grandes Gueules, à 11h20, le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamrane, qui part en guerre contre un fast-food Master Poulet. Il n'en veut pas, il dit on est là aussi pour défendre la bonne bouffe, pas uniquement les fast-food, mais du côté de la population on dit désolé monsieur, mais on a des menus à 5 et 7 euros, donc vous devriez, vous le maire de gauche, penser au pouvoir d'achat. On évoquera aussi Bruno Retailleau, ça y est, le candidat officiel des Républicains pour l'élection présidentielle. S'il arrive à l'Élysée, c'est 200 000 postes de fonctionnaires à supprimer. C'est ce qu'il veut faire. Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Est-ce que les agents de la fonction publique sont la variable d'ajustement du budget, des déficits? C'est au 32-16 que vous viendrez en discuter avec nous. Mais d'abord, on va s'intéresser à ce qui s'est passé aux États-Unis, à Washington. C'est la tentative d'assassinat contre Donald Trump. Le tireur présumé va être présenté aujourd'hui à la justice. Bon, on a vu et revu les images, on l'a identifié. Il s'appelle Cole Allen, il a 31 ans. C'était un ingénieur qui donnait des cours du soir, un type qui n'avait pas de casier judiciaire, présenté comme quelqu'un de bien sous tout rapport, d'apprécié. Bon, il a publié un manifeste dans lequel il disait vouloir s'en prendre à des membres du gouvernement. Il a été présenté comme par le président Trump lui-même comme un loup solitaire, ayant écrit un manifeste anti-chrétien. Ce qui est intéressant, c'est d'écouter ce qu'a dit Donald Trump ensuite, chez nos confrères de Fox News. Il a dit « Je ne peux pas imaginer une profession plus dangereuse, mais je suis là pour ça », dit-il. Enfin, il est là pour ça. Il y a 5 tentatives d'assassinat quand même contre Donald Trump, 45e et 47e président des États-Unis. Désolé, c'est terrible à dire, mais on est presque sur un record, quoi. La plus spectaculaire, on s'en souvient, c'est la balle qu'il a frôlée à l'oreille en 2024 pendant la campagne électorale, où il a échappé à la mort. Pourquoi autant de tentatives d'assassinat contre Donald Trump, Joël Dagosséry?
Il est le chaos.
Comment?
Il est le chaos, Donald Trump.
Ah, c'est lui qui... Oui, il est
même,
le chaos.
C'est même pas qu'il crée le chaos, il est lui-même le chaos. Il se sent bien, j'ai l'impression, à l'intérieur du chaos. Donald Trump a quitté son premier mandat, on se rappelle, avec l'envahissement ou la prise, je sais pas comment on peut dire ça, du Capitole. Et je me souviens avoir discuté en France avec des personnes qui sont des partisans de Donald Trump et qui ne voyaient aucun problème à ça.
Il les a graciés d'ailleurs.
Oui, c'est ça, exactement. Donc
quand tu provoques le chaos, il faut pas s'étonner ce que le chaos revienne sur toi.
Exactement, il est le chaos, il emmène le chaos avec lui, il est revenu en tant que président avec le chaos. Ce dîner des correspondants
de la
maison blanche, dîner qui est censé être pour un peu réconcilier l'administration d'État avec les journalistes, c'est un moment un peu aussi un peu léger, etc.
C'est convivial, où ça chambre beaucoup d'ailleurs, le président chambre les journalistes, les journalistes chambrent le président.
On se rappelle de quelques dîners Obama où il avait d'ailleurs chambré Trump, qu'il avait très mal pris, et où je me souviens le dernier dîner d'Obama, c'était quand il avait lâché le micro, enfin comme un mic drop comme on dit. Donc ça avait fait un peu rire Donc c'était vraiment léger. Là, on a un Trump qui avait zappé, je crois, l'avant-dernier dîner. Et sur ce dernier dîner, ça finit par une fusillade. Donc c'est pas de sa faute. Je veux dire, c'est pas lui qui a armé ce prof pour qu'il vienne tirer sur lui. Mais je dis quand même qu'il trimballe avec lui le chaos et qu'il y a un moment où les gens doivent comprendre que un président qui prône le chaos, il faut pas penser que ça va s'arrêter au président, ça va se déverser dans toute la société, toute la société va être influencée à ça.
L'Amérique a toujours été violente, il y a toujours eu des tentatives d'assassinat des présidents, il y en a malheureusement qui ont réussi.
Il cristallise quand même.
Donc il devrait s'interroger sur ce qu'il provoque.
Il doit s'interroger lui-même et ses partisans, il y en a beaucoup qui sont dans une déception totale de ce que Trump est. Même pas de ce qu'il fait, mais de ce qu'il est en lui-même, en tant que personne.
T'es d'accord avec ça, Charles ?
Oui, partiellement. On ne peut pas faire comme si Trump était un président normal. Il est effectivement porteur lui-même de beaucoup de troubles dans la société, que ce soit avec ICE, où ils ont vraiment fait n'importe quoi, pour dire les choses comme elles sont. Ils ont fait n'importe quoi. Ou avec les conflits à l'étranger, etc. C'est un président qui remue énormément de choses, pour le meilleur et pour le pire. Certains diront exclusivement pour le pire. Moi, je ne pense pas que ce soit exclusivement pour le pire, mais il est porteur d'instabilité, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais par ailleurs, moi, je pense qu'il y a un problème plus inhérent aux États-Unis, qui est que le port d'armes est un truc généralisé. Il y a beaucoup, beaucoup plus d'armes qu'en France. Et donc, fatalement, si vous avez beaucoup, beaucoup plus d'armes en circulation, vous avez beaucoup plus de malades qui peuvent en prendre une et essayer de tirer sur...
Mais ça, c'est malheureusement le quotidien, si tu veux. Là, ce que Joël dit, c'est quand tu provoques la violence, quand tu provoques le chaos... Il ne faut pas s'étonner que ce chaos se retourne contre toi et contente de t'assassiner. Il fait de la politique, Trump. Ça ne justifie pas qu'on tente de l'assassiner. Donc, votre raisonnement est un peu dangereux quand même. Mais votre raisonnement est quand même dangereux. Dites, c'est de sa faute. Si on veut l'assassiner, c'est de sa faute.
Non, mais regarde par exemple les méthodes de ICE. Elles ont choqué la planète entière. Je veux dire, c'est vraiment inqualifiable d'envoyer ces espèces de demeurés violenter les gens, tuer des pauvres.
C'est un peu caricatural.
Mais c'était ça. On a vu les images d'une pauvre femme aide-soignante à l'hôpital qui se prend une balle dans la tête parce que elle est pas sortie assez vite de sa voiture. Enfin, il fallait voir quand même ce que c'était, ce truc. C'était avec.
Elle avait fait un refus d'obtempérer.
Un directeur.
Il y a un militant aussi qui avait pris.
Qui s'habillait comme un nazi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de. Mais c'est une réalité, ça. Donc, franchement, c'était une grande déconnade. Par ailleurs, Trump, tout n'est pas. Moi, j'ai défendu son côté, le fait qu'il soit porteur de liberté, si vous voulez. Pour moi, c'est une Amérique à l'ancienne.
Tu mets bien sa personnalité extravagante, provocatrice.
Aujourd'hui,
ça nous fait du bien. Mais je ne veux pas dire que cette personnalité extravagante, provocatrice.
Ça n'est pas que la personnalité.
Justifie qu'on tente de l'assassiner.
Mais on comprend pourquoi.
Le problème de fond, je crois, depuis qu'il est président, c'est qu'il communique trop. Il est trop présent quotidiennement de manière extravagante. Et à un moment donné, c'est too much. Et ça fait déjà bien longtemps que c'est too much. À cela s'ajoutent ses actions extérieures, avec en particulier la guerre en Iran. D'une certaine manière, l'opération réussie au Venezuela nous coûte très cher parce que ça l'a enhardi. Ça n'a pas permis à ses militaires de s'opposer à ce projet de guerre du Golfe. Et maintenant, on est empêtré. Il s'est mis. Je tiens cette expression de mon frère Pierre, l'ancien chef d'état-major des armées. Il s'est mis dans une situation impossible. Et preuve en est qu'il n'arrive pas. Alors, il prétend que des négociations avancent.
Maintenant, les négociations, elles ont lieu à Saint-Pétersbourg.
Alors, quant à l'attentat lui-même, on parle beaucoup du secret de service. C'est une expression qui est très impactante. Ça, on a un petit arrière-goût de James Bond. Dans le secret de service, c'est pas du tout des agents secrets en chapeau mou, brillantissimes. C'est une bande de balourds dans des 4x4. Et ils sont 8000.
Enfin, ils sont 8000, mais ils ont autorité sur le président des États-Unis.
Donc, ils ne travaillent pas en finesse, d'où cet attentat très amateur tant dans la mise en œuvre que dans les failles qui lui ont permis d'exister.
Il a été neutralisé avant d'entrer dans la salle.
C'est très, très, très amateur. Et les Américains sont des balourds. J'aime beaucoup les Américains. Mais ils ne travaillent pas en finesse. Donc, il n'y a pas de chef, il n'y a que des procédures. De toute façon, s'il avait pu rentrer dans la salle, il aurait été maîtrisé, même par des invités. Il avait une arme qui ne permettait pas de...
Il avait des couteaux.
Oui, mais il ne pouvait pas tirer une arme lourde sur le président des États-Unis ou une personnalité dans les premiers rangs de la salle. Et il faut savoir que normalement, les palais présidentiels ont des espaces de réception pour ce type d'événement. Donc, la difficulté, c'est toujours... Moi, je l'ai vécu en tant que directeur de parc, avec aussi des personnalités. C'est très difficile de gérer une activité normale en coexistence avec la présence de hautes personnalités qu'il faut protéger, parce que c'est lui et l'eau, et c'est pour ça qu'il a son projet de salle de bal un peu controversé.
Il a dit que ça le justifie.
Comme on a la salle des fêtes par exemple.
Ce qui est terrible, c'est que ça alimente les complotistes qui disent, voyez, Donald Trump, pour remonter dans les sondages et avoir sa salle de bal, ben en fait, je disais, il organise lui-même, voyez, des attentats, attentats ratés ou des attentats bidons.
Je trouve que comme je l'ai laissé entendre tout à l'heure, ce qui me paraît vraiment très grave, c'est que outre le fait qu'ils doivent avoir autre chose à faire, tous les patrons des États-Unis, pour être ensemble en smoking jusqu'à pas d'heure, pour essayer de passer la main dans le dos des journalistes et avoir de meilleurs articles. Il devrait maintenant se reconcentrer sur la crise au Moyen-Orient, qui est d'une toute autre importance. On a déjà trop parlé de cet attentat. Il y a toujours eu des fous, et qui plus est avec les médias aujourd'hui, pour tenter des opérations kamikazes, puisqu'ensuite, ça se termine toujours mal. Il faut savoir que, par exemple, je l'apprends aux auditeurs, je l'ai découvert, c'était tout à fait insolite. Le criminel qui a tué Robert Kennedy, qui était en passe d'être candidat aux élections présidentielles américaines, désigné Robert Kennedy, surnommé Bobby Kennedy, en juin 1968 à l'ambassadeur hôtel de Los Angeles, il est toujours en prison. Mm-hmm. Toujours en prison. Donc ça se termine mal, ces attentats. Le plus grave, je me permets d'en reparler, c'est l'attentat contre François Ferdinand en juin 14 à Sarajevo, qui a déclenché la Première Guerre mondiale. 10 semaines après, alors que la France a abordé un bel été, 10 semaines après, mon grand-père mourait. Moi, le père de mon père mourait pour défendre Nancy, simplement parce qu'un fou est allé assassiner l'archiduc austro-hongrois.
Joël Lagosserie, puis on ira au 32-16. Écoutez Antoine.
Sur l'impression d'amateurisme là pour l'évacuation du président ou la surveillance, en tout cas des invités et des gens qui étaient présents dans l'hôtel, cette impression d'amateurisme, elle est un peu partout autour de Donald Trump. T'as l'impression, quand t'as des ministres qui ouvrent la bouche, qu'en fait, ils racontent des bêtises, des références bibliques qui n'en sont pas, enfin, des contradictions. Et lui, il a théorisé ça. Il a dit qu'il voulait s'entourer de personnes qui étaient bêtes. Tu vois ce que je veux dire? Et donc,
Donald Trump. Je sais pas s'il a dit ça.
Oui,
le patron du FBI, manifestement.
On le voit derrière Emmanuel De Villiers, qui est à la gauche de Donald Trump, cache Mattel, qui paraît-il un spécialiste de la boutanche.
Oui, tout à fait.
De la bouteille. et qu'on retrouve régulièrement ivre-mort dans les bars de Las Vegas, entouré de gardes du corps. Ses jours seraient comptés si l'on se fie à des rapports et à la fois à des rapports et des articles de presse, quoi. Il est plus performant sur la bouteille que sur l'organisation.
Il a un budget boisson conséquent.
Oui, conséquent, oui.
Donc, quelque part, le monde, est entre guillemets gouverné par une bande quand même d'amateurs. Et ça fait
assez peur. Moi, je trouve votre raisonnement un petit peu dangereux, parce qu'Abraham Lincoln, il se met pas le chaos, Abraham Lincoln. C'était un pacifiste, il a été tué. John Fitzgerald Kennedy.
Tu me demandes pourquoi 5 tentatives.
Oui, mais 5. C'est un record.
Oui,
voilà.
D'accord, mais c'est dans un pays, une société qui est violente en elle-même, qui a malheureusement aussi dans ses gènes politiques les tentatives d'assassinat. Reagan, il y avait une tentative d'assassinat devant le même hôtel.
Si tu regardes le cinéma américain, il y a une fascination pour ce genre de truc. Combien il y a de films américains dans lesquels la sécurité du président est menacée, il va se faire tirer dessus dans tel ou tel événement public. Il y en a peut-être 200 des films américains dont c'est le thème principal, que ce soit ça ou des tueurs en série. Ils ont une fascination pour les tueurs en série.
Et presque responsable lui-même de, des cinq tentatives d'assassinat contre lui.
Il a une responsabilité de l'atmosphère quand tu es président, un président tel que Donald Trump, tu as une responsabilité de l'atmosphère que tu vas infuser dans ton pays. On avait, il y a la semaine dernière, ou je sais plus si il y a deux semaines, les images de Mamdani et Obama qui étaient à l'école maternelle en train de chanter des comptines avec les enfants. Eh ben, tu as des partisans ou des ex-partisans de Donald Trump qui ne regardent même plus, qui ont oublié la politique qu'ils décriaient d'Obama et qui sont juste à réclamer de l'apaisement dans le pays. Et donc, à côté, t'as Mamdani et Obama qui jouent aux marionnettes et où tu te dis, mais ils se disent, mais c'était tellement bien, ça fait du bien d'avoir quelque chose de normal et de l'apaisement. Donc, il faut voir aussi que le chaos dans l'esprit des Américains, en tout cas une partie des Américains.
Il faut leur envoyer le président normal, François Hollande.
Ah ouais.
Ou Sébastien Lecornu,
oui, passe
ses courses avec ses poireaux et son pull en V. On a Antoine qui est avec nous. Bonjour Antoine.
Bonjour les grandes gueules.
Bonjour. Qu'est-ce que vous en dites alors? Pourquoi autant de fois cibler Donald Trump?
Ouh là là, mais je crois que pour ce brave monsieur, ce n'est pas encore fini, ça va continuer. Tout ça, en fait, c'est le résultat de ce qu'il sème. C'est quand même une personnalité, au-delà de sa politique, c'est un autre problème, c'est quand même une personnalité qui est extrêmement clivante. Et en fait, il crée une tension qui fait que, on va dire, autour de lui, c'est soit on est contre lui, soit on est pour lui. Et généralement, quand on commence à dire « qui est contre moi ?», qui est pour moi, généralement, c'est qu'on prépare une bataille, on prépare un affrontement. À côté de ça, si on regarde un peu M. Trump, il est en campagne permanente, c'est-à-dire qu'il n'arrête pas. Dès qu'on lui tend un micro, dès qu'il y a un journaliste, en fait, il est tout le temps dans un rôle de vouloir être au centre, d'être la vedette, d'être le centre de tout, qui fait en fait qu'il provoque tout ça. Et j'ai presque envie de dire que quand il y a la foudre, je suis presque à me dire qu'il fait exprès de sortir pour la prendre, quoi. Donc malheureusement, les Secret Service, à mon avis, n'ont pas fini d'en chier parce que c'est pas fini. Et même parfois, je veux pas trop être défaitiste ou voir les choses trop noires.
Ça risquerait de mal finir pour Donald Trump, quoi, en fait. C'est ce que vous dites.
Exactement. Ça risque de très mal finir parce que il est vraiment en train de le vouloir, tout ça. Il est vraiment en train de vouloir créer.
Je pense pas qu'il veuille qu'on lui tire dessus quand même.
Non,
il le veut pas, mais il le provoque.
Je rejoins infiniment Antoine, il communique beaucoup, beaucoup trop.
Antoine, fin de la discussion, je vous remercie d'avoir été avec nous. Dans un instant, Bruno Retailleau, candidat à la présidence de la République, dans son programme, la suppression de 200 000 postes de fonctionnaires. Est-ce que c'est nécessaire? Alors, il est quand même un cran en dessous de François Fillon qui, à l'époque, en voulait 500 000. Là, c'est 200 000 pour Bruno Retailleau. Nécessaire ou pas, vous venez en discuter avec nous au 32-16, il est 10h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules, c'est en direct sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui avec Joël Dagosséry, la coach de vie, Charles Consigny, l'avocat, et Emmanuel Devilliers, le chef d'entreprise. Les grandes gueules sont avec vous au 32-16, notamment pour parler des fonctionnaires. Et pourquoi des fonctionnaires? Parce que le président des Républicains, Bruno Retailleau, qui est maintenant candidat à l'Élysée, est parti en campagne et il veut supprimer au moins, dit-il, 200 000 postes dans la fonction publique s'il est élu en 2027. En 2017, François Fillon, c'était 500 000 emplois publics. En 2022, il est plutôt sur l'étiage de Madame Pécresse, puisque c'était 200 000. La fonction publique, c'est 5 851 000 personnes à la fin de l'année 2024. Rappelons que fonctionnaire, c'est un statut qu'il y a trois fonctions publiques, la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale, et la fonction publique hospitalière, est celle qui a le plus recruté sur ces dernières années, c'est la fonction publique territoriale. Alors, est-ce qu'il a raison, Bruno Retailleau? Est-ce que, s'il est élu, il faut supprimer 200 000 postes de fonctionnaires, au moins 32-16, pour en discuter avec les grandes gueules? Charles?
Oui, je pense que le jeune Retailleau a raison. Moi, je suis beaucoup plus sur la ligne Fillon.
500 000, justement.
Je constate, je cite souvent ce chiffre, que nous avons 1 million de fonctionnaires en plus qu'en Allemagne, alors que nous avons 15 millions de citoyens en moins. C'est quand même intéressant. L'Allemagne, aux dernières nouvelles, c'est pas le Far West. C'est un pays comparable au nôtre et qui n'est pas sous-administré. Donc je pense qu'on peut effectivement supprimer un très grand nombre de postes. Je constate ailleurs que il y a d'autres structures qui marchent très bien quand on supprime des postes. Par exemple, X, quand ça a été racheté, Twitter, racheté par Elon Musk, il a viré quasiment plus de la moitié, je crois, des effectifs. Ça a quand même très bien continué à fonctionner. Donc je pense qu'on peut faire ça dans beaucoup de domaines. Moi, je crois même qu'il faut supprimer certains domaines d'intervention de l'État. Mais je suis certain qu'on peut faire un effort de 200 000 postes et je suis même certain qu'on peut faire un effort d'1 million de postes puisque carrément. Nous avons 1 million de fonctionnaires en plus qu'en Allemagne pour 15 millions de citoyens en moins. Donc je suis absolument certain qu'on peut réduire,
donc,
dégraisser.
Donc toi tu dis carrément à Bruno Retailleau, faites mieux Monsieur Retailleau.
Absolument, quoi. Je le trouve très timide.
Et Joël Dagosséry.
Non, je sens qu'on va rentrer dans l'ère des ventes aux enchères chez Drouot, où chacun va venir nous dire combien de milliers.
100 000, non, 200 000. 200 000.
Ouais, 500 000, moi 500 000, etc. Moi je ne vais pas voter pour quelqu'un qui me vient et qui me dit je vais te supprimer 200 000 postes. 200 000 postes, qu'est-ce que ça cache? Je veux dire, quels sont les domaines de l'État que tu vas restreindre, qui justifie ces 200 000 postes? Quelles sont les libertés que tu vas me rendre et qui justifie ces 200 000 postes? Moi, il me dit pas qu'il va réformer l'État, le fonctionnement de l'État, qu'il va redéterminer, redéfinir les périmètres de l'État dans lesquels l'État, enfin les périmètres de l'État, voilà, où il doit intervenir. Mm-hmm. Et il vient comme ça, il dit je t'enlève 200 000 postes. Si tu enlèves 200 000 postes en l'état actuel des normes, des lois, etc., on va souffrir en tant que citoyen. Je rappelle que Monsieur Le Cornu, il y a une semaine ou deux, je ne sais plus, nous disait qu'il le devait. Alors pas Le Cornu, c'est le ministre de l'Intérieur. Laurent Nunez nous disait qu'il cherchait à recruter beaucoup plus pour les préfectures, pour raccourcir les délais en termes de demandes de papiers, etc. Donc tel que l'État fonctionne, si tu supprimes 200 000 postes, nous les Français...
Tu vas emboliser l'État.
Exactement. Les attentes pour les passeports, etc. Impossibilité des fois de joindre un agent, un fonctionnaire de l'État. Donc c'est pas 200 000, 500 000 que j'attends. C'est de l'efficacité, c'est de redéfinir les périmètres de l'État. Du coup, la conséquence, c'est quoi? C'est on a besoin de moins de fonctionnaires. Et voilà les conséquences pour vous en tant que citoyen. Sans ça... C'est pas la peine de venir me blablater. C'est juste du blabla pour dire, moi, vous allez voir, c'est de la rigueur budgétaire, hein. Ouh là là.
Mais oui, mais. Alors, moi, je vais avoir le point de vue du modeste gérant de PME pendant 40 ans. C'est que l'État a un problème financier. Tout le monde le sait maintenant. Alors, heureusement, les Français commencent à en prendre conscience. Et au sein de ce problème financier, ce sont les coûts de fonctionnement. Classiquement, comme pour une entreprise privée. Ce sont pas les coûts d'investissement, ce sont les coûts de fonctionnement qui plombent l'État, fondamentalement. Et au sein de ces coûts de fonctionnement, ce sont les coûts salariaux. Donc on peut disserter de toutes les manières.
C'est, oui, mais il y a, donc, il y a raison,
que sur le levier des salaires qu'on peut remettre l'État à flot financièrement. Il s'agit, dans l'optique de Bruno Retailleau, comme ça a toujours été évoqué par ses prédécesseurs, non pas de coups franches ou de licenciements, de scandales, que sais-je. Il s'agit, à ma connaissance, de non-remplacement. Alors, ce qui est un processus long et laborieux, mais ça ne représente, selon les chiffres qu'Alain Marchal a donné au début de cette séquence, simplement 3,4% du volume global. C'est là que Charles Consigny n'a pas tort, parce que 3-4%, ça reste très modeste. Et si on ne le fait pas de cette manière-là, un jour on sera en banqueroute, et là ce seront des licenciements secs, ce seront des répudiations sur le champ. Aujourd'hui, par exemple, on dit qu'il faut toujours plus de policiers. Moi, je m'inscris dans cette volonté. Mais pourquoi il faut plus de policiers? Et on a un avocat sur le plateau. Alors, il va peut-être dire le contraire, que par moment la justice est sévère. Mais parce qu'il n'y a pas de justice, parce que la vie en prison n'est pas conforme à ce qu'elle devrait être. Je disais que Bobby Kennedy est toujours en prison après un assassinat en 1968.
Pas Bobby Kennedy, l'assassin.
Donc, à partir
Bobby
du
Kennedy.
Moment où il n'y a pas de justice efficace, que la société n'est pas tenue, il faut toujours plus de policiers.
On a besoin dans la fonction publique du quotidien. Joël prenait l'exemple des passeports, des papiers, même si on en fait beaucoup nous-mêmes. Et c'est vrai que ça prend du temps. Mais donc ce qu'on veut, c'est de l'efficacité.
On a des agents qui sont à 20 heures par semaine aussi dans certaines administrations. Oui. C'est pour ça que ça prend du temps. Je vous invite à consulter cet excellent humoriste qui s'appelle Mogiz. Je ne sais pas si vous connaissez Mogiz, qui fait blagues, des vidéos sur Instagram, et qui a très bien saisi, il fait l'administration, donc la pause café qui débouche sur la pause déjeuner, qui elle-même débouche sur la pause café, qui débouche sur la fin de la journée, en gros. C'est assez drôle et ça n'est pas un humoriste d'extrême droite. Hein. Et il a vraiment bien compris le problème, de même que les lourdeurs, le fait que tout est impossible, tout est toujours non, la photo n'est pas aux normes, je n'ai pas le droit de vous donner mon mail, etc. Je vous invite à regarder ces vidéos qui disent beaucoup de notre pays. Moi, je pense qu'il y a un problème de temps de travail dans une partie de la fonction publique, il y a un problème de motivation.
Mais ça, c'est pas évoqué. C'est plus facile de dire non-remplacement ou suppression, comme le dit Joël, de donner une ligne comptable, bravo, spectaculaire, etc., plutôt que de gagner en efficience ou en efficacité.
Il faut arrêter de faire semblant qu'on peut ni baisser les impôts, ni baisser le nombre de fonctionnaires.
Oui, mais on peut le faire, mais tu vois bien que les propositions qui nous sont emmenés sont des propositions un peu flatteuses et un peu rapides. 200 000 fonctionnaires, moi je suis d'accord, même 500 000, pourquoi pas, mais derrière, est-ce que tu me garantis une qualité de service? Oui. Non, si tu continues
à
fonctionner...
Mais là, tu as la qualité de service?
Mais non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, mais justement, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu continues, si l'État continue à fonctionner comme ça, Charles, et que tu enlèves 200 000 ou 500 000 fonctionnaires...
Dans les pays où une personne sur deux est fonctionnaire, il y a une qualité de service.
Le travail va retomber sur le reste des agents, avec pléthore de normes à gérer, des lois qui changent toutes les 4 secondes, etc. Et donc, ils vont être épuisés. Et puis,
quand tu dis, Dieu sait si je t'apprécie, mais quand tu dis le travail va retomber sur les autres fonctionnaires, on a l'impression d'un fardeau. Ils sont de la mine, là.
Non, mais je sais qu'il y a des fonctionnaires, bien sûr qu'il y a des gens qui ne font pas leurs heures, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pareil, l'État fait pareil. Il tape toujours en bas, tape en haut. Moi, je veux qu'il coupe la tête. Et la tête, excuse-moi, elle est grosse comme une pastèque. Donc il y a un moment, il faut que l'État réfléchisse à, est-ce que je dois continuer à gérer tout de A à Z, ou est-ce que je réduis mon périmètre, est-ce que j'enlève des couches étatiques, et en ce moment-là, on supprime des fonctionnaires. Sans ça, c'est du cosmétique. Moi,
on a Guillaume qui veut intervenir dans notre discussion, il est en Gironde. Bonjour Guillaume.
Et bonjour à tout le monde.
Qu'est-ce que vous en dites alors, ce que veut faire Bruno Retailleau, 200 000 postes en moins.
Je voulais juste vous féliciter Messieurs Marchal et Truchot, pour votre prestation dans les nuits du Casar enchaîné. Excellente émission.
Ah oui, merci. On a parlé foot. Oui, oui. Toute la nuit.
Et j'encourage les gens à écouter le podcast quand vous y étiez, parce que les gens qui vous aiment beaucoup vont apprendre pas mal de choses et c'est assez rigolo.
Je ferme la parenthèse. Merci, Guillaume.
En fait, depuis tout à l'heure, je vous écoute et c'est un peu que vous faites le jeu de Bruno Retailleau. Ouais. Charles, parce que il caricature. Joël, parce qu'elle part sur les couches de l'État, et Emmanuel, parce que lui, il transpose une entreprise sur l'État. Je suis pas en train de vous donner une leçon, pas du tout. Hein, je suis loin d'être. Je dis juste que quand un politique de l'envergure de Bruno Retailleau, qui a quand même été ministre important, dit il faut supprimer 200 000 fonctionnaires, là où on va se rejoindre tous les trois, c'est que ça veut rien dire. C'est du populisme. C'est un peu ce que les gens veulent entendre éventuellement. Alors, peut-être pas tous les fonctionnaires, mais... Parce que fonctionnaire, c'est quoi?
C'est un statut, déjà.
Ouais. Donc déjà, c'est pas un métier. Donc déjà, on sait pas qui coûte quoi. Donc comme disait Joël, il faut commencer par la tête, peut-être. Ceux qui coûtent le plus cher. Voir est-ce qu'ils sont efficaces? Est-ce qu'il y a un rapport entre l'efficacité, le coût du travail, le coût pour l'État, le coût pour les contribuables? Donc, comme vous disiez tous, en revanche, là, je vous rejoins, effectivement, Bruno Retailleau dit n'importe quoi, ça sert à rien, il n'y a pas de colonne vertébrale, et s'il fait comme Sarko en 2007,
ça date, ça va faire 20 ans.
Il n'a pas remplacé un sur deux, mais en fait, c'est pas les meilleurs qui sont partis, hein. Des instits, des flics de proximité.
Mais souvenez-vous qu'à l'époque, on avait fait des ajustements comptables du temps de Nicolas Sarkozy. La police a mis des années et des années à s'en remettre, notamment. C'est plutôt de savoir quel est le périmètre, comment on rend efficace, efficient, d'autant que l'intelligence artificielle arrive. Donc, il y a déjà dans des services où, si vous voulez, l'intelligence artificielle va imposer des réductions d'effectifs. On le sait, et la fonction publique, alors peut-être protégée par son statut, ne sera pas épargnée ou sera plus épargnée que le privé, quoi.
Oui, mais du coup, choisissons sa sortie. Il faut choisir sa sortie, sinon on va la subir. Ouais. À cause de l'IA, effectivement, Puis, en fait, aussi, enfin, moi, quand on refait nos papiers, Joël le disait aussi, quand on refait nos papiers, on fait tout de A à Z.
Oui, c'est vrai.
Ceux qui faisaient les trucs avant. Donc, comme vous disiez.
Et en général, il manque toujours quelque chose.
Alain, ah, oui, ça, c'est sûr. Alain, c'est comme vous disiez, là, aujourd'hui, il y a l'IA qui arrive, il y a tout un tas de process qui arrivent. Si jamais on ne s'occupe pas de les fonctionnaires ne se prennent pas en main ou les politiques ne prennent pas en main, ils subiront ce qu'ils ne veulent pas voir arriver.
Voilà. Guillaume, je vous remercie d'avoir été dans les GG, dans les grandes gueules. On va regarder. Bonne journée, Guillaume. À bientôt. Je vous envoie un t-shirt des GG parce qu'on me dit que la nouvelle collection est arrivée.
Donc, je
vous la montrerai, mais je vous envoie le t-shirt des GG. Bonne journée, Guillaume. Bruno Retailleau veut supprimer 200 000 postes de fonctionnaires. Est-ce que c'est nécessaire? Vous me dites oui à plus de 90%.
Incroyable. Ouais.
Allez, dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, on va aller à Saint-Ouen où le maire Karim Bouamar part en guerre contre un fast-food, moi je ne le connaissais pas, Master Poulet. Et ce qu'il dit, Karim Bouamran, il dit, moi je ne veux plus de la malbouffe, je ne veux pas des ouvertures tardives, je ne veux pas des livraisons, je ne veux pas des nuisances sonores et des odeurs pour les habitants qui vivent au-dessus. Est-ce qu'il a raison? 32-16 pour en discuter avec les GG, il est 11h25.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
Les grandes gueules avec aujourd'hui Joël Dagosséry, la coach de vie, Charles Consigny, l'avocat, Emmanuel Debillier, le chef d'entreprise. Est-ce que vous connaissez l'enseigne Master Poulet? Personnellement, non, mais ça provoque la polémique à Saint-Ouen.
Master Poulet s'est installé à Saint-Ouen. Ils se sont installés sans respecter les règles du droit commun. C'est la raison pour laquelle, parce que je dois faire respecter la puissance publique, nous sommes rentrés dans une bataille juridique. En attendant, un message pour Master Poulet. Bien joué.
Ah, c'est la bagarre avec Master Poulet. Vous venez d'entendre Karim Bouamran, le maire de Saint-Ouen. Alors Master Poulet a déposé des banderoles de défense. Le maire a mis des énormes pots de fleurs devant dans lesquels il aurait mis en plus de la terre malodorante pour éloigner ceux qui tenteraient de venir vers l'enseigne. Et que dit Karim Bouamran? Il dit moi je refuse qu'un établissement dégrade les conditions de vie des riverains. Alors c'est plein centre-ville, hein, Master Poulet. Le meilleur du poulet grillé, c'est le slogan. Livraison tardive jusqu'à 2h du matin, donc les riverains en ont assez. Nuisance sonore répétée. Odeur pour les habitants qui vivent au-dessus. Et que dit-il? Il dit, moi, ma responsabilité, c'est de protéger la qualité de vie des habitants. Sauf Karim Bouamran, il est de gauche. Il y a pas mal d'habitants qui disent, mon cher Karim, tu n'as plus de gauche que le nom. Parce que, vu ce qui se passe pour le pouvoir d'achat, Master Poulet, c'est 3 pilons plus du riz pour 7€, un pilon de poulet épicé à 1€, la barquette de pommes de terre à 2,50€. Donc ce qu'ils disent, c'est bon pour le pouvoir d'achat. Alors Master Poulet qui doit ouvrir pour ou contre, est-ce que c'est un énième fast-food? Et effectivement, le maire a raison en disant, je dis non parce que c'est les livraisons, parce que ça ouvre tard le soir, parce que ça embête les riverains. 32-16 pour en discuter avec les GG, avec les grandes gueules. Nous avons une habitante de Saint-Ouen, une ex. Comment on dit?
Odonienne.
Une Odonienne avec nous. Qu'est-ce que tu en dis, Joël?
Bon, là, il faut redéfinir ce que être de gauche, parce que les définitions commencent à être assez larges. Moi, ce que j'en dis, je vois très bien où est Master Poulet. Master Poulet s'est installé en centre-ville, un peu en face de la mairie, avec en face, tu as un Burger King. Donc, qu'est-ce qu'on reproche au maire, à Karim Bouamran? C'est de dire, il y a déjà un fast-food en face, donc pourquoi est-ce que tu n'acceptes pas, entre guillemets, un autre fast-food?
Il ne doit pas y en avoir qu'un en plus.
Oui, il ne doit pas en avoir qu'un. Non, mais surtout, en fait, c'est une artère principale. Cette artère, elle part de la porte de Saint-Ouen, donc quand on rentre dans Saint-Ouen, on quitte Paris, jusqu'au bout, jusqu'à la mairie. Donc, moi, ce que je dis, je suis au milieu. Moi, je suis pour la liberté d'entreprendre. Je n'aime pas qu'on vienne casser les pieds à des gens qui entreprennent, qui créent des emplois, qui vont aussi dynamiser la ville. Et j'aime pas que l'État, la mairie, l'administration viennent casser les pieds. Master Poulet, ils ont eu 14 contrôles, je crois, sanitaires. Mm-hmm. 14, je crois que ça doit être un record. Donc, manifestement, on veut vraiment les faire fermer. Ceci dit, si la gauche, si Master Poulet n'était pas Master Poulet, la gauche dirait que ce serait, que c'est du capitalisme forcené. Tu vois, les LFI, parce que c'est LFI qui est très contre le Karim Bouamran, parce que Master Poulet, c'est des enseignes qui ouvrent, c'est à marche forcée, hein. Je crois qu'on en est à la 20e enseigne, sans compter toute la galaxie qui entoure les nouveaux fast-food, les testis croustis, etc. C'est pas de la bonne bouffe, on le sait, mais on a tous eu de la malbouffe, on a mangé au McDo. Quand j'étais plus jeune, on nous expliquait que le McDo c'était dégueulasse, que c'était pas bon. Et les gens qui attaquent le maire Bouamran aujourd'hui oublient en fait que la France a lutté très longtemps contre les McDo. Moi, je me rappelle des McDo cassés, caillassés, les José Bové.
Il avait démonté.
Mais complètement. Ouais. Donc c'est un combat. En fait, c'est un combat qui n'a rien à voir avec PS, gentrification, etc. C'est un combat, moi, qui me semble très français, de lutter contre les fast-foods, mais ceci dit, je crois qu'il faut laisser la liberté d'entreprendre. Et les histoires d'odeurs, moi, tu sais, j'ai une rôtisserie pas loin de chez moi. Et ben, ça sent dans le.
Non, mais ça sent pas jusqu'à 2h du matin.
Oui, oui, je suis d'accord.
Dans ton 16e, ça sent pas jusqu'à 16h du matin. À ce moment-là, on peut peut-être
réguler peut-être les heures.
Et tu n'as pas les scooters et les livreurs jusqu'à 2h du matin non plus.
Si, dans le 16e, il y a plein de scooters et de livreurs. Les gens se font livrer toutes les 4 secondes. Je te compte même plus le nombre de fois où on sonne à l'immeuble parce qu'il y a un livreur qui vient monter. Donc non, c'est pas que dans le 93 à Saint-Ouen. Donc les odeurs. Si c'était une rôtisserie normale, on parlerait pas des odeurs. Mais parce que c'est Master Poulet, on parle des odeurs.
Donc, c'est amusant, Master Poulet, parce que d'abord le nom est très sympathique. Mais
tu irais toi ou pas?
Vraiment, je vois l'enseigne. Pour ceux qui sont à la radio, l'enseigne est très très sympathique. Alors il y a une curiosité, c'est que le poulet c'est un coq sur le logo. Et moi, le premier film que j'ai été voir au cinéma, Adieu poulet avec Lino Ventura. Donc je comprends le maire Bouamran, qui est un type très dynamique. Je partage pas ses idées socialistes évidemment, mais il présente bien et c'est un type exigeant avec lui-même. C'est un grand sportif. Il finira réac ce gars-là parce qu'il est moderne, il évolue, il réfléchit. Et je comprends que les nuisances, c'est pas normal. Que ce soit les odeurs, a fortiori le bruit, il doit y avoir une heure limite de 23 heures parce qu'on a le droit de vivre chez soi et de ne pas favoriser ce commerce. Quant au fait que ce soit pas cher et avec de la mauvaise qualité.
Pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas finalement le client décider?
Oui, voilà.
Tu vois, tout simplement.
Moi, je trouve quand, si
jamais ça ne marche pas,
quand il est allégué que c'est une nuisance à la ville ou autre, vraiment ce logo est superbe, c'est, le nom est sympa et il faut simplement réguler les nuisances.
Charles.
En tout cas, pour celui qui était présenté par une certaine presse comme le Obama français, je constate
pressenti
que...
pour Matignon, maman, ouais, son nom circulait.
Bien sûr, je pense que son nom circulait surtout dans son bureau, si tu veux. Je pense que c'est lui qui faisait circuler son nom. De même que bon, quand il fait des phrases sur la prochaine présidentielle en estimant qu'il peut être un recours. Bon bah manifestement, en tout cas c'est noble. Il n'y a pas de petit sujet. Il est pour l'instant.
Il n'est pas le seul hein, dans ces cas-là. Hein. C'est pas l'apanage de Karim Bouamran.
Qu'il n'a pas de petit
d'avoir
sujet.
De l'ambition et d'essayer de faire parler lui.
Oui.
Et en attendant, il a bien été réélu à Saint-Ouen.
C'est ça.
Et donc les combats contre Master Poulet précèdent ceux contre Vladimir Poutine. Imagine.
Non, mais
si tu as réussi à terrasser Master Poulet, tu peux terrasser Donald Trump. Et Vladimir Poutine, dans le jeu des prédateurs, comme on nous le dit aujourd'hui. Moi, en tout cas, je suis favorable à la liberté du commerce. Je suis par ailleurs favorable à la junk food. J'adore les fast food. Je trouve ce Master Poulet tout à fait appétissant. Nous avons des images sous le nez. Il est 10h49, bientôt 11h.
Ne laisse pas ton ventre guider ta raison,
Charles. On a petit déjeuner assez tôt. Les M&M's de Joël à la pub n'y font rien.
Ah oui.
Donc, je serai Monsieur Bouamran, je laisserai Master Poulet. Je pense qu'il y a quand même d'autres sujets quand on est maire.
Il y a
d'une
d'autres sujets. Mais quand t'es maire d'une ville, tu te préoccupes du quotidien. Tu te fais interpeller dans la rue. Tu te fais engueuler.
Son principe, son action.
C'est le maire qui se fait engueuler.
Que le maire s'empare du sujet. Très bien. Je suis sûr que c'est son job. Je te dis simplement que moi, je suis pour la liberté du commerce.
Non, Joël. Mais moi, je suis pour l'aménagement du territoire.
Ouais.
Vraiment, je pense qu'un maire doit s'occuper de savoir, de faire en sorte qu'il y ait de la diversité. Mais pas de là à venir fermer une enseigne qui a déjà ouverte. Il faut juste avoir une politique qui permette à ce que plusieurs choix s'installent, etc. Mais venir quand une enseigne est déjà ouverte, lui envoyer des contrôles sanitaires, des pots de fleurs qui puent, etc. Enfin, il y a un moment, je trouve que ça fait, c'est un petit peu trop. Et une fois encore, je dis que les odeurs, oui, alors, on peut mettre des horaires, mais c'est aussi ce qui fait, qui ramène le client. Moi, j'adore les rôtisseries. Quand je sens l'odeur à quelques mètres, je me dis, oulala, c'est où? J'ai le nez, j'ai la truffe qui...
Pétille.
Je cherche, c'est où? Et partout où je vais, que je me déplace en France, et toi, je vois qu'il y a une rôtisserie, j'y vais. Oui, j'achète. Oui. Je suis cliente de rôtisserie.
Dans les parcs américains, il y a des diffuseurs d'odeurs.
Oui, exprès, exactement.
Près des zones de restauration rapide.
Après, est-ce que c'est de la qualité? Non, on le sait que c'est pas de la qualité. Et les
clients, c'est pour ça que c'est pas cher.
Oui,
disent les clients, c'est à Saint-Ouen, qui est une ville qui est quand même, même si elle s'est un peu gentrifiée ou elle s'est boboisée, comme on dit aujourd'hui, c'est quand même une ville où il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas beaucoup de pouvoir d'achat, où il y a un taux de chômage qui est assez important. Et ce qu'ils disent, c'est nous, désolé, mais les brasseries qui sont un peu plus loin, nous, on n'y va pas dans ces brasseries. Les menus à 25 balles, on peut pas les avoir. Les menus à 30 balles, on peut pas les avoir.
C'est clair.
Donc, là où on peut manger, c'est là, avec la barquette à 7 euros,
oui, après,
avec trois pilons et du riz.
On peut pas faire comme si c'était la seule alternative pour manger. On peut aussi encore manger chez soi. Parce que c'est marrant, parce qu'on dit, oui, mais là, c'est 5 euros, là, c'est 7 euros. Bah oui, mais c'est moins cher quand tu cuisines chez toi aussi. Donc, il faut arrêter de faire comme ça. On est obligé de manger dehors. On n'est pas obligé de manger dehors. Maintenant, oui, c'est de la malbouffe, il faut le dire. Moi, je suis sûre que pour avoir ça à 5 euros, je sais pas comment est grillé le poulet, je sais pas quel poulet il est. Mais on est
c'est pas un poulet. De vrai, c'est élevé au gras.
Oui, mais on a tous eu de la malbouffe. On est parti au McDo et puis après on arrête quand on est un peu plus vieux. On n'arrête pas comme Charles, on continue. Voilà, mais je pense que c'est un combat inutile.
Ouais, Trump se nourrit exclusivement de McDonald's.
Oui, c'est vrai.
Il est en pleine forme.
Mais tu dis c'est la liberté d'installation, sauf quand dans une rue tu es monocommerce.
C'est-à-dire
que tu as, tu as essentiellement, des fast-food comme à une époque, on disait, attendez, il y a que des restaurants de sushi qui ouvrent partout, où il y a des à chaque coin de rue, t'as une agence immobilière ou un magasin d'optique. Donc, tu es responsable aussi de l'activité économique, tu vois, de ta ville et de l'ouverture des enseignes et de la variété de ces enseignes, de ce que tu offres aussi à ta population, qui t'a sûrement en plus élu pour ça en disant, monsieur le maire, les fast-food, il y en a ras-le-bol.
Sur ceux qui disent qu'il a une façon de voir le centre-ville. Je suis pas sûre que si Master Poulet s'était installé plus reculé dans Saint-Ouen, qu'il aurait eu cette guerre. C'est parce qu'il est en centre-ville, en face de la mairie.
Ou alors ça dit quelque chose de notre pays. C'est-à-dire que comme on est dans un pays avec une population qui a de moins en moins de pouvoir d'achat, eh bien, on est, hormis quelques quartiers centre-ville ou quelques grandes agglomérations, eh bien, aujourd'hui, si tu veux, tu as des villes qui sont condamnées à n'avoir finalement que des fast-food ou de la restauration rapide, quoi. On va dire ça comme ça, quoi. Et c'est symptomatique d'un pays qui s'appauvrit, qui n'a plus les moyens d'aller au restaurant.
Non, mais il y avait un marché. McDo est passé avec le menu à 13 balles, etc. Donc, ils ont arrêté.
C'est à 13 balles aujourd'hui.
Ouais, ils ont arrêté.
Ils ont commencé, moi je l'ai connu, c'était à 5
encore avec Deliveroo
ça devient hyper cher,
hein.
C'est-à-dire qu'ils ont arrêté d'être de la nourriture bon marché, et donc il y avait une place à prendre. Des nouveaux fast-food se sont mis dedans, et c'est pas forcément lié à la volonté des citoyens, etc. Il y a une machine marketing qui est en place. C'est un rouleau compresseur. Oui. Il faut regarder, par exemple, pour Testicroussi qui est derrière.
On avait goûté ici, d'ailleurs.
Il y a des agences marketing, ce sont des rouleaux compresseurs.
Tu peux pas y acheter. Parce que...
Même ma fille, qui est dans une école privée, dans un très beau quartier, ils avaient, il y a deux semaines, un vendredi Testicroussi au sein de l'école. Non, mais oui. Donc, il fallait
c'est
que je
le rôle de l'école
de faire ça. Alors, on
peut-être pas déconner, quoi.
N'importe quoi. Alors, ça a été annulé, je sais pas pourquoi, à la dernière minute. Mais voilà, ça a inondé partout.
Moi, j'ajouterais simplement, tu parlais de marketing, les gens qui ont monté ce truc Master Poulet avec ce logo et la baseline, le meilleur poulet grillé, alors que c'est le plus mauvais, c'est des bons, hein. Ils sont bons.
Allez, dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, on va accueillir Patrick Sébastien, polémique autour de sa nouvelle chanson paillarde Delphine, qui vise Delphine Ernotte. Elle veut porter plainte contre Patrick Sébastien pour outrage sexiste et sexuel. Que disent les paroles de la chanson Delphine, si t'avais connu ma pine, on aurait été amoureux. Delphine, si t'avais connu ma pine, tu aurais les larmes aux yeux. Et derrière, il développe en disant c'est toi qui m'as baisé en premier, puisqu'il l'accuse de l'avoir viré de la télévision. Vous restez avec les GG, avec les grandes gueules. Il va venir s'expliquer, il va venir répondre. Patrick Sébastien dans les grandes gueules, juste après 11h. Il est 11h05.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.